Nicolas prit avec grand intérêt la monture fourchue que Guillaume lui tendait.
« Oculi de vitro cum capsula » s'exclamait-il. « J'en avais ouï parler par un certain frère Giordano, que je connus à Pise. Il disait qu'il ne s'était pas passé 20 ans depuis leur invention. Mais il y a plus de 20 ans de cela que je m'entretins avec lui.
« Je crois qu'ils ont été inventés bien avant, » dit Guillaume. « Mais ils sont difficiles à fabriquer. Et il y faut des maîtres verriers d'une grande expérience. Ils coûtent du temps et du travail. » Il y a 10 ans, une paire de ces vitrei ab oculis ad legendum a été vendue à Bologne pour 6 sous. Moi, j'en reçus d'un grand maître, Salvino degli Armati, une paire en cadeau, voilà plus de 10 ans, et je les ai jalousement conservés pendant tout ce temps. Comme s'ils étaient, ce qu'ils sont désormais, une partie de mon propre corps.
J'espère que tu me les laisseras examiner un de ces jours. Il ne me déplairait pas d'en fabriquer de semblables, dit avec émotion Nicolas.
« Bien sûr, acquiesça Guillaume. Mais fais attention que l'épaisseur du verre doit changer selon l'œil auquel il faut l'adapter. Et il faut essayer quantité de ces verres sur le patient, tant qu'on ne trouve pas la bonne épaisseur. »«
Quelle merveille !» s'extasiait Nicolas. « Et cependant, beaucoup parleraient de sorcellerie et de manipulation diabolique. »«
Certes, pour ces choses, tu peux parler de magie, confirma Guillaume. Mais il est deux formes de magie. » Il y a une magie qui est l'œuvre du diable et qui vise à la ruine de l'homme à travers des artifices dont il n'est point permis de parler. Mais il y a une magie qui est œuvre divine, là où la science de Dieu se manifeste à travers la science de l'homme, qui sert à transformer la nature, et dont l'une des fins est de prolonger la vie même de l'homme. Et c'est là une magie sainte, à laquelle les savants devront de plus en plus se consacrer, non seulement pour découvrir des choses nouvelles, mais pour redécouvrir tant de secrets de la nature que la sapience divine avait révélés aux Hébreux, aux Grecs, à d'autres peuples antiques, et jusqu'aux infidèles aujourd'hui. Et inutile de te dire quelle merveille d'optique et de science de la vision recèlent les livres des infidèles. Une science chrétienne devra se réapproprier toutes ces connaissances, les reprendre aux païens et aux infidèles, Taquam ab injustis possessoribus.
Mais pourquoi ceux qui possèdent cette science ne la communiquent-ils pas au peuple de Dieu tout entier?
Parce que le peuple de Dieu tout entier n'est pas encore prêt à accepter tant de secrets. Et il est souvent arrivé que les dépositaires de cette science aient été pris pour des magiciens liés par un pacte aux démons, payant ainsi de leur vie le désir qu'ils avaient eu de faire part aux autres des trésors de leur connaissance. Moi-même, durant les procès où l'on soupçonnait quelqu'un de commerce avec le démon. J'ai dû me garder d'utiliser ces vers, ayant recours à des secrétaires pleins de bonne volonté qui me lisaient les écritures dont j'avais besoin, parce qu'autrement, à un moment où la présence du diable était aussi envahissante, et où tous en respiraient, pour ainsi dire, l'odeur de soufre, j'eusse été vu moi-même comme l'ami des accusés de l'Inquisition. Et enfin, avertissait le grand Roger Bacon, les secrets de la science ne doivent pas toujours circuler entre toutes les mains. Car certains pourraient en user mal à propos. Souvent, le savant doit faire apparaître comme magique des livres qui n'ont rien à voir avec la magie, mais sont justement de bonne science pour les protéger des regards indiscrets.
Tu crains donc que les gens simples puissent faire mauvais usage de ces secrets ? Demanda Nicolas.
En ce qui concerne les simples, je crains seulement qu'ils puissent en être terrorisés en les confondant avec ces œuvres du diable dont trop souvent parlent leurs prédicateurs.
Tu vois, il m'est arrivé de connaître des médecins très habiles qui avaient distillé des médicaments capables de guérir sur le champ une maladie. Mais ceux-ci administraient leur onguent ou leur infusion aux gens simples en accompagnant l'acte médical de paroles sacrées et en psalmodiant des phrases qui avaient l'air de prières. Non point parce que ces prières avaient pouvoir de guérir, mais pour que, croyant que la guérison venait des prières, les simples avalent l'infusion ou s'enduisent d'onguent et ainsi guérissent, sans trop prêter attention à la force effective du médicament. Et puis aussi pour que l'esprit, parfaitement excité par sa confiance en la formule dévote, se dispose mieux à l'action corporelle des substances médicamenteuses. Cependant, il faut souvent défendre les trésors de la science non contre les simples, mais plutôt contre d'autres savants. On fait aujourd'hui des machines prodigieuses, dont je te parlerai un jour, avec lesquelles on peut vraiment diriger le cours de la nature. Mais malheur si elles tombaient entre les mains d'hommes qui s'en serviraient pour étendre leur pouvoir terrestre et assouvir leur soif de possession. On me dit que dans le Cathay, un sage a fait un mélange avec une poudre qui peut produire, au contact du feu, un grand grondement et une grande flamme, détruisant toute chose sur des brasses et des brasses alentour. Admirable artifice! Si on l'employait à dévier le cours des fleuves ou à briser la roche, là où il faut défricher la terre. Mais si quelqu'un s'en servait pour porter dommage à ses propres ennemis, peut-être serait-ce un bien s'il s'agissait d'ennemis du peuple de Dieu, dit Nicolas avec onction. Peut-être, admit Guillaume. Mais qui est aujourd'hui l'ennemi du peuple de Dieu? Louis Empereur ou le pape Jean? Oh, Seigneur, dit Nicolas tout effrayé, je ne voudrais vraiment pas trancher seul sur une question aussi douloureuse. Tu vois, dit Guillaume, il est parfois bon que certains secrets restent encore couverts par des propos occultes. Les arcanes de la nature ne circulent pas sur peau de chèvre ou de brebis. Dans le livre des secrets, Aristote dit qu'à trop communiquer les arcanes de la nature et de l'art, on rompt un sceau céleste, et que de nombreux maux pourraient s'en suivre. Ce qui ne veut pas dire que les secrets ne doivent pas être dévoilés, mais qu'il revient aux savants de décider quand et comment. Raison pourquoi il est bon qu'en des lieux comme celui-ci, dit Nicolas, tous les livres ne soient pas à la portée de tous. Ça, c'est une autre histoire, dit Guillaume. On peut pécher par excès de loquacité et par excès de réticence. Je ne voulais pas dire qu'il faut cacher les sources de la science, ce qui me semble au contraire un grand mal. Je voulais dire que, s'agissant d'arcanes dont il peut naître soit le bien, soit le mal, le savant a le droit et le devoir d'utiliser un langage obscur, seulement compréhensible à ses semblables. Le chemin de la science est malaisé, et il est malaisé d'y distinguer le bien du mal. Et souvent, les savants des temps nouveaux ne sont que des nains hissés sur des épaules de nains. L'aimable conversation avec mon maître devait avoir mis Nicolas en veine de confidence. En effet, il fit un clin d'œil à Guillaume, comme pour dire « toi et moi, on se comprend parce qu'on parle des mêmes choses », et une allusion. « Pourtant, là-haut, » et il indiqua l'édifice, « les secrets de la science sont bien gardés, défendus par des œuvres de magie. » « Oui, » dit Guillaume en jouant l'indifférence. « Portes barricadées, interdictions sévères, menaces, j'imagine ?»«
Oh non, davantage !»
« Quoi, par exemple ?»«
C'est que voilà, je ne sais pas précisément, moi je m'occupe de vers et pas de livres, mais dans l'abbaye il circule des histoires étranges. »«
De quel genre ?»«
Étranges. Disons, celle d'un moine qui, à la faveur de la nuit, a voulu s'aventurer dans la bibliothèque pour y chercher quelque chose que Malachi n'avait pas voulu lui donner, et il a vu des serpents, des hommes sans tête et des hommes avec deux têtes. » Peu s'en fallut qu'il ne sortît fou du labyrinthe.
Pourquoi parles-tu de magie et non d'apparition diabolique?
Parce que si je suis un pauvre maître verrier, je ne suis pas à ce point-là ingénu. Le diable, Dieu nous en garde, ne tente pas un moine avec des serpents et des hommes bicéphales, mais plutôt avec des visions lascives, comme pour les pères du désert. Et puis, s'il est mal de mettre la main sur certains livres, pourquoi le diable devrait-il détourner un moine de la tentation du mal?
Ce me semble un bon antimème, admit mon maître.
Et enfin, quand j'ajustais les vitrages de l'hôpital, je me suis amusé à feuilleter certains livres de Séverin. Il y avait un livre de secrets écrit, je crois, par Albert le Grand. Je fus attiré par des enluminures curieuses. Et je lus des pages sur la façon dont on peut suiffer la mèche d'une lampe à huile et comment les fumigations qui en résultent procurent des visions. Tu auras remarqué, ou plutôt tu n'auras pas encore remarqué car tu n'as pas encore passé aucune nuit à l'abbaye, que pendant les heures d'obscurité, l'étage supérieur de l'édifice est éclairé. À travers les verrières, en certains endroits, transparaît une faible lumière. Beaucoup se sont demandé ce que c'est. Et on a parlé de feux follets, ou des âmes de moines bibliothécaires trépassés qui reviennent visiter leur royaume. Beaucoup y croient ici. Moi, je pense que ce sont des lampes préparées pour les visions. Tu sais, si tu prends le gras de l'oreille d'un chien et que tu en passes sur une mèche, celui qui respire la fumée de cette lampe croira avoir une tête de chien. Et si quelqu'un se trouve à côté de lui, il le verra avec une tête de chien. Et il existe un autre onguent. Avec lui, ceux qui tournent autour de la lampe se sentent grands comme des éléphants. Et avec les yeux d'une chauve-souris et de deux poissons dont je ne me rappelle pas le nom, et le fiel d'un loup, tu fabriques une mèche qui, en brûlant, te fera voir les animaux dont tu as pris le gras. Et avec la queue d'un lézard, tu fais voir toutes choses alentour comme si elles étaient d'argent. Et avec le gras d'un orvet et un petit bout de drap funèbre, la pièce où tu te trouves apparaîtra remplie de serpents. Moi, je le sais, il y a quelqu'un de très rusé dans la bibliothèque.
Mais ne pourraient-ce être les âmes des bibliothécaires trépassés qui font ces maléfices ?